je m'appelle Eya Belkirat, je suis conseillère EDF pour les entreprises. Mes clients entrepreneurs veulent une gestion sans imprévu de leur budget électricité. Alors, je leur propose un contrat EDF adapté à leur activité, dont la part énergie est à prix fixe de 1 à 4 ans. Ils peuvent ainsi mieux maîtriser leur budget et être plus tranquilles. Appelez-nous au 3022.
EDF. Service gratuit prix d'un appel local. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Contrat à prix fixe de l'énergie hors répercussion des évolutions réglementaires prévues dans le contrat.
Lundi prochain. Pas d'accord donc à l'issue de ce qui était censé être la dernière journée de ce conclave. Le MEDEF dit n'avoir pas décidé s'il se rendrait ou non à cette dernière rencontre. Donald Trump exige une capitulation sans condition de l'Iran. Le président américain se montre de plus en plus menaçant envers le régime de Téhéran 6 jours après le lancement par Israël d'attaques sur le pays. Les États-Unis savent exactement où se cache le guide suprême iranien, ajoute encore Donald Trump, qui ne compte pas l'éliminer, du moins pour le moment, dit le chef d'État américain. De son côté, Emmanuel Macron avertit que toute tentative de renversement du pouvoir en Iran par la guerre entraînerait le chaos dans le pays. Il appelle à revenir à la table des discussions. Le chef de l'État français s'exprimait au deuxième jour du sommet du G7 dans l'ouest du Canada, sommet quitté dès le premier jour par Donald Trump en raison de la situation au Moyen-Orient. Le prochain G7 qui se tiendra par ailleurs en France, à Évian, en Haute-Savoie, annonce Emmanuel Macron, ce sera en juin 2026. Le G7 encore, qui affiche son soutien à l'Ukraine, mais sans Donald Trump. Il s'est opposé à une déclaration forte pour condamner la Russie, alors qu'au moins 14 personnes, dont un Américain, ont été tués à Kiev la nuit dernière par une attaque russe, l'une des pires frappes de Moscou sur la capitale ukrainienne, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Plus de 50 personnes ont été tuées par Israël près d'un centre de distribution de nourriture à Gaza, à Khan Younes, selon la défense civile de l'enclave, un centre géré par l'organisation soutenue par Israël et les États-Unis. Selon les secours, Israël a visé des Palestiniens avec des drones, puis avec des chars israéliens qui ont tiré plusieurs obus sur la foule. Citroën rappelle toutes les C3 et les DS3 en Europe après un nouvel accident mortel la semaine dernière. Jusque-là, le constructeur avait invité certains conducteurs à faire remplacer leurs airbags, mais pas à cesser d'utiliser ces véhicules désormais. C'est un rappel stop drive dans toute l'Europe qui est déclenché, autrement dit une immobilisation immédiate de tous les modèles C3 et DS3, quelle que soit l'année de production, suivie d'une réparation. Ça concerne plus de 440 000 voitures, dont 82 000 en France. Les airbags Takata sont défectueux. Ils peuvent projeter des bouts de métal dans l'habitacle en se déclenchant. C'est ce qui a tué une conductrice la semaine dernière. Deuxième accident mortel dans l'Hexagone, mais il y en avait déjà eu 17 dans les Outre-mer. Il était une légende du football français. Bernard Lacombe est mort ce mardi à l'âge de 72 ans. Il était hospitalisé depuis janvier. Et si l'attaquant a fait l'essentiel de sa carrière à l'Olympique lyonnais, c'est avec les Girondins de Bordeaux qu'il deviendra champion de France dans les années 80. Champion d'Europe aussi avec les Bleus en 84. Il était aussi le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France.
Inter, la nuit, près de votre oreille.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Vous êtes peut-être adepte des films New York, Miami, Elle et lui, coup de foudre à Notting Hill, quand Harry rencontre Sally ou Love Actually. Question, est-ce que ces comédies romantiques influencent notre vision du couple et de l'amour? Ces comédies imposent-elles à l'insu de notre plein gré des scripts et des synopsis, des scénarios, dans la manière de conduire nos affaires de cœur, de la rencontre à la rupture, en passant par la lune de miel, les crises et réconciliations? Des questions que nous posons à l'occasion de la sortie du roman Paris-Hollywood, quand une journaliste culture maladroite rencontre une méga star sexy américaine. Et vous, les comédies romantiques influencent-elles votre vision du couple et de l'amour? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Je peux vous offrir un thé si vous avez le temps?
Non.
Café?
Non.
Un jus d'orange. Une boisson fraîche, alors. Un coca, un verre d'eau. Ou bien Un de ces sodas infâmes, soi-disant apparentés à de vrais fruits?
Non.
Quelque chose à manger? Des abricots, au miel. C'est une drôle d'idée, ce truc, parce que ça ressemble plus à des abricots. Le miel masque leur goût. Si c'est du miel qu'on veut acheter, du miel tout seul, on laisse tomber les abricots. Quoi qu'il en soit, ils sont là. Si vous voulez goûter.
Non.
D'accord. Vous répondez toujours non à tout?
Non.
Bonjour Cécile Murry.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste à Télérama et vous publiez chez Flammarion votre tout premier roman, Paris Hollywood, référence au célèbre film New York-Miami de Frank Capra avec Clark Gable et Claudette Colbert. Votre roman est placé sous le signe des comédies romantiques comme Coup de foudre à Notting Hill, dont on vient d'entendre un extrait. Hein.
Oui, tout à fait. j'adore ce dialogue, je m'en souvenais plus, mais il est assez drôle. Et effectivement, c'est une des sources d'inspiration évidentes de mon roman, puisque c'est l'histoire d'un anonyme qui tombe amoureux d'une star. Et moi, j'ai inversé ça, l'anonyme étant une journaliste et la star un homme. Mais effectivement, c'est une de mes références.
Bonjour Guimetto Dissino.
Bonjour Ali.
Chroniqueuse dans cette émission le vendredi et chef de rubrique cinéma à Télérama. Ce roman que vous avez aimé, Paris Hollywood, joue avec les codes de la comédie romantique. Et pourtant, on croit quand même à cette histoire, même en jouant sur tous ces codes qu'on connaît par cœur.
Oui, c'est ça qui est fou. C'est vraiment, enfin, le livre de Cécile Murry, on dirait la meilleure comédie romantique de l'année au cinéma, en fait. En gros, hein, c'est ça. En plus, ça parle beaucoup de cinéma parce qu'il y a cet art très très malicieux d'être en même temps dans le quotidien. Puisque donc son héroïne Marianne, elle est journaliste en fait, d'ailleurs dans un journal, qui est notre journal à toutes les deux, hein, qui pourrait être notre journal toutes les deux, puisque c'est un journal qui s'appelle L'Œil, vous voyez, qui est un journal culturel, et elle a des rendez-vous de journaliste, elle a une vie normale, elle a des potes, elle a un petit appartement, etc. Sauf que soudain intervient l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et c'est le principe toujours absolu, sauf que Cécile Murry, elle le traite avec un humour, mais un truc décoiffant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule situation qui ne devienne pas, en fait, source de burlesque, de malentendus, et puis surtout avec un style. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une manière de redessiner certains stéréotypes et certains attendus.
On va y revenir. Bonjour Marianne Chaillant.
Bonjour.
Professeure de philosophie dans un lycée à Marseille. Vous avez notamment publié À la folie, passionnément, publié aux Équateurs. Bonjour Erika Hamel, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes professeure dans le secondaire et vous êtes doctorante en études cinématographiques à l'Université Paris-Cité. Le thème de votre thèse?
Alors, je m'intéresse aux notions d'âge dans les comédies romantiques hollywoodiennes contemporaines, notamment sur des personnages adolescents ou alors des personnages vieillissants par rapport aux normes traditionnelles et le lien de ces questions d'âge avec l'humour des films notamment.
Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une comédie romantique, Erika Hamel? C'est quoi une rom-com?
Alors une rom-com, pour moi vraiment la notion de base, c'est la notion de couple. Une structure assez canonique qui va bien sûr appeler des variations, hein. C'est un garçon rencontre une fille. On voit de nos jours de plus en plus de comédies romantiques avec un garçon rencontre un garçon ou une fille rencontre une fille. L'un des deux au moins tombe amoureux de l'autre. Et le film suit le cheminement de ces deux personnages pour former un couple, avec le plus souvent une sorte de happy end, de célébration finale. Célébration finale qui n'est pas nécessairement la mise en couple effective de ces deux personnages, mais en général ça se termine bien, même s'ils ne terminent pas en couple. Donc ça, c'est la structure vraiment canonique de base, avec quelques motifs récurrents qu'on va retrouver, comme par exemple la notion de coup de foudre, la dispute qui entraîne
la réconciliation.
La réconciliation, bien évidemment.
Cécile Murry.
Oui, c'est instinctivement, effectivement, je me suis basée sur toutes ces étapes, tous ces jalons, et c'est en fait très agréable de broder sur un canevas qui est préexistant et de prendre sa liberté à partir d'une contrainte. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est-à-dire le coup de foudre, la dispute, les quiproquos, toute cette espèce de d'itinéraire balisé où tout d'un coup on peut se promener paradoxalement en liberté et inventer ce qu'on veut à partir de ces motifs-là.
Et rappelons qu'un film comme New York-Miami de Frank Capra a jeter les bases du genre de la comédie romantique au cinéma. Guillemette Audicino.
Oui, je rajouterais que, bon, évidemment, on l'a compris, le garçon, la fille, le garçon, ils vont devoir, en fait, traverser... pardon hein, du mot, mais plein d'emmerdes, avant qu'éventuellement, d'abord, ils vont jamais être d'accord. Il y a quand même un côté crépage de chignon qui est absolument obligatoire, c'est-à-dire que la plupart du temps, dans ce couple, il y en a un, enfin l'un et l'autre, ne viennent pas du même milieu, ou n'ont pas la même culture, ou enfin, ils sont quand même différents. On a un peu le côté deux personnes différentes qui vont essayer de se mettre ensemble, envers et contre, leurs différences, envers et contre leur milieu, envers et contre même leur famille, envers et contre le décor parce qu'il neige, enfin, non mais, donc envers et contre, parce que, ah, ils étaient faits l'un pour l'autre alors que ce n'était pas évident et que ce n'était pas marqué dessus, quoi. Voilà.
Si j'ai bien compris, dans une comédie romantique, on suit deux personnages que presque tout oppose, ensuite la comédie romantique joue sur une série de contretemps qui retardent la formation du couple, et enfin, il y a évidemment la résolution, les retrouvailles après une série de péripéties, dont au moins une rupture. Marianne Chaillant, sur ce canevas de la comédie romantique, le regard de la philosophe.
Mais j'étais en train de me dire que la description qu'il vient d'être donnée de deux héros que tout oppose, ça me faisait penser aussi à Roméo et Juliette.
Ah oui.
Sauf que
oui.
Dans nos comédies romantiques, on nous vend l'idée qu'ils vécurent heureux et firent beaucoup d'enfants. Et donc je me dis, la comédie romantique, c'est cette espèce de l'exomile qu'on se prend pour lutter contre l'âpreté de l'existence, qui est plutôt, bon, alors, peut-être pas du côté de Roméo et Juliette, mais quand même un peu. Et voilà, c'est je pense qu'on a besoin de comédies romantiques.
Pourquoi ?
J'ai l'impression que c'est les contes de fées des adultes que nous sommes. On a beau savoir que dans la vie, c'est plutôt comme dans la citation de Pascal, désolée de la rappeler après, la fin est sanglante.
Merci Marianne Chaillon d'être venue dans On vous fasse.
Mais ce n'est pas fini, Ali. La fin est sanglante. Quelque belle que soit la comédie en tout le reste, on jette un peu de terre sur la tête et en voilà pour jamais. Et nous, nous le savons bien, cette affaire-là. Alors, évidemment, quand on regarde Notting Hill, ça pense cette douleur que nous avons de nous diriger vers cette fin tragique dans nos existences.
Guillemette Audicino.
Ça pense, et de temps en temps, ça agace. Parce que le problème avec la comédie romantique, si on aime beaucoup ça et si on en a beaucoup vu, c'est qu'on y croit.
Et oui.
On finit par y croire. Et on oublie ce que ce brave Pascal a dit. Et la vraie vie de tout en temps nous ramène plus à Pascal qu'à Notting Hill. Donc en fait, c'est drôle parce que c'est à la fois un pansement, un baume, et en même temps une école de la désillusion, la comédie romantique. C'est-à-dire qu'on attend nous aussi sur un banc qu'il arrive avec des fleurs, il arrive jamais. Hein. on attend de s'évanouir dans un parking, on s'évanouit pas du tout. Enfin, etc., etc. Donc il y a aussi ce jeu constant.
Oui.
Entre ce qu'on rêve de l'amour et ce que l'amour nous apporte en vrai.
Marianne Chaillon.
Et je disais donc qu'on en avait besoin, mais moi je me suis dit en venant que nos comédies romantiques, c'était un peu comme les lectures d'Emma Bovary dans Madame Bovary, et qui la rendent malade de cette maladie du bovarisme. C'est-à-dire donc, pour nos auditeurs, voilà une jeune fille qui grandit nourrie de lectures romantiques, comme j'ai pu grandir et beaucoup d'auditeurs nourris des comédies romantiques, et qui au moment où elle entre dans la vie croit que donc ce type va venir sur le banc avec son bouquet de fleurs, et que la vie va être merveilleuse, et pour qui le réel s'avère toujours décevant par rapport aux rêveries de son imaginaire.
Cécile Murie.
Mais justement, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà même de l'idée du miracle, de la rencontre avec l'homme ou la femme de sa vie, l'idée du prince charmant, tout ce qui vient des contes de fées, il y a aussi cette idée qu'on peut être en harmonie parfaite avec des gens qui n'ont rien à voir, mais qui n'ont rien en commun avec nous. Donc l'idée de la... Enfin, toute la structure de la comédie romantique, c'est d'essayer de résoudre l'autre absolu, enfin l'idée que on peut être en fusion avec quelqu'un qui est sans rapport avec soi-même, et c'est cette forme de mensonge là aussi que ça raconte, je trouve.
Éric Amel.
J'ajouterais également que pour moi, la comédie romantique, c'est vraiment un genre cinématographique, pour le coup, qui prône l'idée que l'amour, ça peut concerner tout le monde. Oui. Que vous soyez cinquantenaire, divorcé, mère de famille, ou jeune garçon bourru, un peu désillusionné, ou adolescent mal dans sa peau, ces films montrent que vous pouvez être concerné par l'amour et que l'amour peut vous tomber dessus, finalement.
Et c'est le cas de votre héroïne, hein, Cécile Murie, l'héroïne de votre roman, Marianne Corvaux, journaliste journaliste ciné, on l'a dit, dans un magazine culturel qui ressemble beaucoup, beaucoup à Télérama, et doit interviewer la star mondiale Ben White, qui est un peu son fantasme d'adolescente. Ce Ben White est en promo à Paris pour son nouveau blockbuster. Rendez-vous dans un grand hôtel parisien pour des interviews à la chaîne très formatées. Ça s'appelle les Press Junkets, en bon français. Et là, on peut dire que notre Marianne Corvaux, c'est la cousine de Pierre Richard dans Grand Blond avec une chaussure noire. Exactement. Et de Peter Sellers dans la partie de Blake Edwards. Elle enchaîne les maladresses et les quiproquos verbaux. Voilà. C'est ce que ça commence comme ça.
Oui, tout à fait. Ça commence comme ça, oui. Elle dynamite immédiatement quelque chose, une routine, quelque chose d'un peu mort, de préétabli, et elle vient mettre du désordre, en gros.
Une seconde interview a lieu, car cette interview ne satisfait pas le rédacteur en chef. Et très vite, Ben White et Marianne Corvaux se rapprochent, premier baiser. C'est très chaud, très vite.
Ah oui, écoutez. Oui, il y a quelque chose qui est effectivement là pour le coup de l'ordre du coup de foudre et du conte de fées. Enfin, oui. C'est assumé et en même temps j'ai essayé j'ai fait le truc un peu à l'envers, de détricoter ça à partir d'un principe de conte de fées.
Disons que ça arrive vite.
Voilà.
Quoi.
Oui, ça arrive très
Après,
vite.
Après, il y a plein de péripéties. Guillemette Odissino.
Oui, mais ce qui arrive vite, en fait, à l'intérieur et à l'extérieur, puisque dans le style de Cécile Murray aussi, c'est l'humour.
Ah oui.
Parce que en fait, ce qu'on a quand même un peu oublié de dire, et quand même c'est marqué dessus, comédie romantique, ouais. C'est que c'est aussi l'histoire souvent de gens qui se font rire ou qui rient ensemble des mêmes situations. En fait, le rire est aussi c'est le rire qui est un peu la solution, en fait, qui est un peu le remède pour que le couple reste ensemble. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que Ben White, la star absolue, dont tout le monde baise les pieds, personne n'ose jamais lui dire quoi que ce soit, etc., il voit débarquer donc Peter Sellers, et en fait le mec il se marre. C'est ça le truc, c'est qu'il se marre. C'est pour ça qu'il tombe amoureux de Marianne. Et Marianne est drôle, lui-même finalement on découvre qu'il est drôle aussi. Donc en fait c'est tout ça est d'une mise en abîme de la drôlerie. C'est drôle dans les situations, nous ça, on en rit parce que Cécile l'écrit bien. Enfin, et donc c'est quand même l'humour la solution à tout, bon sang de bois.
On reviendra tout à l'heure sur cette question de l'humour et on accueille nos Hugh Grant et Julia Roberts du mardi. Bonjour Marie-Laure Sunshine, rédactrice en chef à l'Homme Actuel. Quel est le menu de vos questions toujours pertinentes?
Eh bien, les stéréotypes sont-ils toujours génériques et les comédies font-elles office de thérapie de couple à 7 euros la séance?
Bon, au plus de 7 euros quand même.
En moyenne, si je vais
vous avez une carte réduite.
C'est plutôt 12-14 euros. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de vos choses?
Deux questions. L'amour existe-t-il vraiment? Et si oui, c'est quoi?
Oh, ça promet, ça promet.
Vous avez 4 heures.
Vers 11h20. Oui, ça pourrait être un sujet du bac philo, mon cher Christophe. De quelle façon les comédies romantiques influencent notre vision de l'amour et du couple? Ce sera juste après avoir écouté 10cc, I'm Not In Love, une chanson de 1975 qu'on entendait notamment dans un des Bridget Jones. 10h20 sur France Inter. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. It's because aussi interpréter I'm Not In Love.
France Inter.
Harry.
Quoi?
On va se contenter d'être de bons amis, d'accord?
Génial, amis.
Ah, ça, y a pas de
problème. Rends bien vous face.
Tu sais bien sûr qu'on ne pourra jamais être amis.
Pourquoi pas?
Ali Rebéi.
Comment les comédies romantiques influencent notre vision de l'amour et du couple avec la journaliste Guillemette Odissino, la primo-romancière Cécile Murry qui publie Paris Hollywood, avec la doctorante Erika Hamel et avec la philosophe Marianne Chaillon. Écoutons le micro-trottoir réalisé par Lucie Grandet-Lavigne dans les rues de Paris la semaine dernière.
Bah moi j'adore le journal de Bridget Jones, je suis vraiment fan, j'adore regarder.
J'ai beaucoup aimé L'Arnaqueur avec Romain Duris et Vanessa Paradis.
10 bonnes raisons pour te larguer, Grease et À tous les garçons que j'ai aimés.
Sinon quand Harry rencontre Sally, je la trouve pas mal aussi.
Moi je regarde ce que ma copine elle regarde.
Je sais qu'à un moment ça a pas mal influencé ma vision de l'amour. Et que depuis, j'ai réussi à m'en détacher. Mais je sais que ça a été aussi assez nocif parce que ça véhicule des codes qui sont un peu faux dans la société. L'amour au premier regard, le date un peu idéal ou parfait.
Ça donne pas une vision normale de la vie du couple, de toutes les relations amoureuses. Parce qu'en fait, le film, il s'arrête quand le couple il se met ensemble. Mais on voit jamais comment ça va se passer dans 5 ans, en fait.
Bah, souvent, je m'attends à ce que le garçon qu'on fasse, il fasse des choses plus romantiques. Alors que dans la vraie vie, c'est moins comme ça. C'est plus réaliste.
Micro-trottoir réalisé par Lucie Grandet-Lavigne. Réaction autour de la table. Bah
déjà, c'est chouette d'avoir cité L'Arnaqueur. Parce que c'est, et là aussi, c'est typiquement, là aussi, c'est deux personnes qui sont ô combien différentes, puisqu'on a d'un côté quasiment la fille d'un milliardaire, et de l'autre côté un arnaqueur. Enfin bon. Mais, et puis, on l'entend bien, c'est horrible, ça commence par, oh, j'adore tel film, et ça finit par, c'est pas comme ça dans la vie. Oui, c'est sûr que la déception, elle peut être cuisante. Après, on peut prendre juste des tips, des conseils dans les comédies romantiques. On peut essayer de voir si ça fonctionne par petites touches.
Marianne Chaillon.
Oh, y a même des scènes hautement philosophiques dans certains films. Et je pensais à 4 mariages et un enterrement, qu'on n'a pas encore cité. Ouais. Et cette non-demande en mariage à la Brassens à la fin, qui est quand même une sacrée leçon sur la nature du désir amoureux. Comment le garder vivant en ne l'attachant pas par ses liens du mariage. Mais Charles, si je me souviens bien, dit à Carrie, est-ce que tu acceptes de ne pas te marier avec moi et d'envisager cela pour le reste de ta vie, dans cette espèce c'est pas du libertinage, c'est pas du désengagement, c'est pas de la lâcheté, mais c'est une espèce de position philosophique où on se dit que pour maintenir le désir vivant, il ne faut pas l'attacher.
Cécile Murry.
Oui, moi il y a un autre film, et puis pour rebondir un peu là-dessus, qui a été cité, c'est quand Harry rencontre Sally, qui travaille vraiment, qui est très intelligent sur les comédies romantiques, parce qu'il fait tout à rebours, et il travaille sur une autre idée de l'amour, un amour qui se construit à partir de l'amitié, qui se construit à partir de la connivence, et justement à partir de tout ce qu'on peut partager.
Marianne Chaillon.
Et puisqu'on est dans le décryptage des scènes hautement philosophiques, il y en a une qui est dans Notting Hill, donc cette star américaine se retrouve passe sa première nuit d'amour avec avec le libraire, et au réveil elle lui cite cette phrase où elle lui dit les gens vont se coucher avec Gilda, ils se réveillent avec moi, alors est-ce que la rencontre du réel est décevante, est-ce qu'elle vient fracasser tes rêves imaginaires. J'imagine que quelque chose est tissé aussi dans votre livre.
Oui,
c'est ce que Marilyn Monroe disait.
Oui.
Marilyn Monroe disait les hommes se couchent avec Marilyn, ils se réveillent avec Norma Jean.
Voilà, c'est ça.
Donc,
Gilda, référence évidemment à Rita Hayworth. Marianne Chaillant, l'une des matrices de la comédie romantique, c'est évidemment le conte de fées, avec la figure incontournable du prince charmant qui a durablement influencé notre vision du couple et de l'amour. Ce prince charmant en figure attractive ou en repoussoir. Dès l'enfance, nous sommes biberonnés par cette vision de l'amour issue du conte de fées. Et pour Géraldine Prévost-Gigant, qui est autrice de l'essai Grand amour se préparer à la rencontre, et je la cite, le mythe du grand amour, d'un amour parfait qui dure toute la vie, ou du moins longtemps, prend racine dans les contes de fées que nous racontaient nos parents quand nous étions enfants.
Oui. Et ce que je disais à l'occasion de mon essai sur À la folie passionnément, peut-être que ce mythe est le meilleur moyen d'être profondément malheureux en amour, en fait. Et parce qu'on reproche à une histoire d'amour qui se finit d'être un échec, parce que précisément on nous a nourris avec cette idée qu'un amour réussi serait un amour qui dure dans le temps, un amour plein, un amour sans manque, un amour parfaitement. Alors que Il y a dans une série, elle aussi philosophique, qui s'appelle Friends, un personnage qui s'appelle Phoebe, dont la maman lui a montré plein de films, mais elle a arrêté avant la fin, pour qu'elle ne voit pas que l'iceberg percute le Titanic, pour qu'elle ne voit pas que Roméo se suicide. Et un jour, Phoebe tombe sur une fin et voit tout. Toutes les fins de films qu'elle n'avait jamais vues, et se dit mais qu'est-ce que c'est cette laideur du monde. Et je raconte ça parce que nous qui avons grandi avec les contes de fées, avec les Disney, avec les comédies romantiques, peut-être qu'on nous maintient dans une illusion depuis le départ qui vient rendre douloureuse la rencontre de l'expérience amoureuse, alors que si on nous en donnait la loi d'emblée, si on nous nourrissait à Carmen plutôt, si on nous apprenait que l'amour n'a jamais connu de loi.
Mais pensez-vous, Marianne Chaillant, que le mythe du prince charmant dans les films Disney notamment a durablement conditionné les adultes que nous sommes, qui sommes à la recherche du couple idéal?
Oui, vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que des auteurs comme Albert Cohen ont voulu écrire des bouquins pour nous dire mais cet amour passionnel, sortez-en, on n'en peut plus. Valorisons l'amour conjugal, valorisons l'amour véritable contre cet amour passionnel illusoire. Bon, je sais que moi, en ayant lu Belle du Seigneur, ça n'a pas beaucoup marché, cette intention sur moi. Ça m'a plutôt donné envie d'éprouver la passion. Je suis passée à côté de la leçon philosophique du bouquin.
Guillaume Todisino.
Oui, c'est pas. Enfin, évidemment, les contes de fées et les comédies romantiques nous abreuve. Mais en fait, le plus dangereux, c'est d'abord, la notion du happy end.
Oui, voilà.
En fait, c'est très bien d'avoir des coups de foudre et tout. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses dans la comédie romantique. En fait, effectivement, il faut s'arrêter comme Phoebe avant la fin. À partir du moment où on nous condamne au happy end, si notre couple se passe mal, c'est qu'on a loupé notre vie, alors qu'en fait, il s'est quand même passé potentiellement 10 ans avant, qui était cool.
C'est
la notion du happy end, et effectivement aussi la notion du couple fusionnel. Quelque chose qui fait qu'on ne peut plus se passer l'un de l'autre. Et dans les contes de fées, on oublie aussi beaucoup que dans la vraie vie, et dans la vie moderne, on a des amis. Alors, c'est pas forcément qu'on tombe amoureux de ses amis, mais on a des amis autour aussi. La notion de l'amitié, elle est dans toute bonne comédie romantique. Il y a toujours le meilleur ami, la meilleure amie, celui qui vous console à la fin, celui qui vous accompagne au karaoké pour chanter encore plus faux que vous devant votre futur mari, enfin, etc. etc., etc.
Et c'est le cas dans votre roman Paris-Hollywood, Cécile Murie, la présence des amis.
Oui, je ne peux pas imaginer une histoire, une comédie romantique ou quelque autre histoire qui a à faire avec la description du quotidien sans parler de l'amitié, qui est l'autre, enfin, c'est les autres grandes histoires d'amour. Amour qu'on trouve dans les comédies romantiques et qui finalement c'est aussi des relations à propos desquelles on reste plus idéaliste parce qu'on n'est jamais ou rarement, enfin bon, en tout cas c'est mon point de vue, on n'est jamais déçu par l'amitié, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes illusions, on est dans une vérité de la relation qui est bien plus forte.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, on a parlé pas mal d'amitié, du mythe, des contes de fées, finalement de choses, presque des stéréotypes quand même dans l'évolution de cette relation. Et je me tourne vers vous, Erika Hamel. Alors, je suppose que vous avez étudié tout ça de très près et beaucoup de comédies. Est-ce que vous diriez que ça change un petit peu? C'est-à-dire, je pense notamment la classique scène de la fille qui a son premier rendez-vous et qu'on voit dans le film se préparer pendant 2 plombes. Le mec, on ne sait pas ce qu'il fait pendant ce temps-là. Et quand c'est la rupture, le copain va prendre 3 tonnes de bière avec ses meilleurs potes, mais on ne voit pas lui pleurer dans son lit avec un paquet de Kleenex et à mettre Céline Dion à fond les ballons, ce que fait Bridget Jones. Donc, on est quand même dans un certain nombre de stéréotypes attendus de, voilà, la jeune femme qui se prépare pendant que l'homme, lui, bon, il attend probablement, sans le bouquet de fleurs, on l'a dit, et surtout pas sur un banc.
Erika Hamel.
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que les films qu'on mentionne depuis le début, c'est des exemples qui sont iconiques, qui ont eu un énorme impact culturel. Mais d'un autre côté, c'est des exemples assez anciens. Pretty Woman a plus de 40 ans maintenant. Coup de foudre à Notting Hill, c'est il y a quasiment 20 ans maintenant.
Ça en dit long sur nous tous autour de la table.
Et en fait, moi, je suis convaincue que justement, la comédie romantique est en train de changer. Parce que ça fait partie des genres cinématographiques qui s'adaptent mieux aux évolutions technologiques, culturelles, des mœurs. Et donc, il y a beaucoup d'évolutions. Ne serait-ce qu'avoir, par exemple, une héroïne qui est soit âgée de 40, 50, 60 ans, c'est nouveau. C'est quelque chose qui a vraiment commencé à émerger de façon franche et nette au début des années 2000. Et avec ça, il y a aussi l'idée des stéréotypes genrés.
Je pense à un film, par exemple, que j'aime beaucoup à titre personnel et qui est très intéressant de ce point de vue, c'est Crazy Amy de Judd Apatow avec Amy Schumer. On a une héroïne qui va à l'encontre d'un certain nombre de stéréotypes genrés. C'est une héroïne alcoolique, fumeuse, très libérée, notamment sexuellement. Et on a un héros masculin qui, de son côté, est un petit peu plus sensible, un peu plus romantique. Donc on a tout un champ d'évolution qui est en train de se produire, qui remet en question aussi un certain nombre de stéréotypes et qui fait que ces films continuent d'être, pas de mon point de vue en tant que chercheuse, mais aussi en tant que spectatrice, qui continuent à être intéressants et pertinents.
Et ce que nous rappelle Marianne Lévy dans son beau livre richement illustré consacré aux comédies romantiques, c'est que la comédie romantique intègre sans cesse de nouveaux codes et qu'elle reflète les combats sociétaux et politiques d'une époque.
Alors, oui, tout à fait. Il y a de plus en plus de films qui émergent, notamment sur Netflix, qui est devenue une vraie plateforme qui sauve un petit peu la comédie romantique, puisqu'on en a de moins en moins qui sortent au cinéma, mais de plus en plus sur les plateformes. Vous avez des auteurs qui s'emparent de ce genre pour délivrer des messages un petit peu autobiographiques. Je pense par exemple à Si tu savais d'Alice Wu, dans lequel on a un personnage d'origine chinoise qui donc qui a émigré dans cette petite ville Squamish, un petit peu catholique traditionnel des États-Unis et qui se retrouve confronté à une forme de discrimination. On a aussi, comme je m'intéresse beaucoup à cette notion de vieillissement, on a donc on a des films qui vont à l'encontre d'un tabou culturel, c'est-à-dire que le tabou culturel, c'est que les personnes âgées n'ont pas de vie sexuelle. Et donc on a ce film comme je vais vous laisser un petit peu imaginer, mais on a ce film comme Upsprings, tous les espoirs sont permis, de David Frankel avec Meryl Streep et Tommy Lee Jones, que je vous conseille, qui est vraiment génial, dans lequel ce personnage de Meryl Streep s'émeut et se désespère de ne plus avoir d'intimité avec son mari et qui donc commence à s'intéresser à comment elle va lui faire plaisir. Et donc je vous laisse, donc il y a une séquence absolument savoureuse que je ne décrirai pas dans un supermarché, dans lequel elle s'intéresse, expérimente, et ça c'est vraiment tabou et subversif d'une certaine façon.
Redonnez le titre.
Tous les espoirs sont permis, de David Frankel, c'est le réalisateur de Le Diable s'habille en Prada.
Guillemette Odissino.
Et puis il peut y avoir aussi de vrais, de vraies comédies romantiques qui intègrent vraiment, enfin, le contexte social, la modernité. Comme là récemment, il y a une comédie qui, en plus, le titre L'amour c'est surcoté, de Mourad Winter, qui était l'adaptation de son propre livre
avec Laura Felpin, qu'on adore.
Avec Laura Felpin, qui prend vraiment en compte aussi une jeunesse d'aujourd'hui, des trentenaires qui, en fait, des mecs qui sont complètement paniqués à l'idée de tomber amoureux, qui préfèrent rester potes et avec des gens jusqu'à la nuit des temps et regarder des matchs de télé sur des canapés sans prendre de risques sentimentaux. Et puis tout d'un coup, mais en fait c'est pas la princesse charmante, c'est juste une nana normale qui débarque. Mais elle est un peu plus courageuse que le mec, c'est tout, quoi.
Le regard de notre psychiatre, Christophe André, il a été thérapeute de couple, figurez-vous, je le rappelle assez souvent dans cette émission. Christophe.
Mon regard, moi je suis nul en comédie romantique, mais justement, j'avais une question pour Erika Hamel. Il n'y a que des femmes qui regardent ça?
Non, alors, la preuve, votre serviteur.
presque que des femmes.
Alors, on va pas se mentir, le public cible, c'est majoritairement des femmes. Il y a eu des tentatives entre les années 90 et 2000 de cibler un public plus masculin, avec par exemple Marie à tout prix, des frères Farelli, des films centrés sur un point de vue plutôt masculin, avec un type d'humour plutôt à destination masculin, donc un humour scatologique, un humour très corporel la plupart du temps. On a une fameuse séquence dans Polly et moi. Une très fameuse séquence dans Polly et moi. Toutefois, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu un... C'est une sorte de cycle qui a un petit peu disparu aujourd'hui. Et je pense que le public cible, ça reste majoritairement un public majoritairement féminin.
Marianne Chaillant, votre regard ?
Non, ça m'interpelle, cette idée qu'il y a un humour de genre. Je me questionnais, je réfléchissais.
Alors, pour le coup, c'est la littérature qui entoure les comédies romantiques, je me permets de...
Non, mais il faut être honnête, c'est vrai que quand le héros est masculin, souvent on appelle ça une comédie tout court et pas une comédie romantique. Ouais. Je pense à Crazy Stupid Love, qui pour moi est une comédie hilarante et qui ne parle que de ça, qui ne parle que d'amour. Mais comme les deux héros sont masculins, Enfin, il y a une, évidemment une sublime héroïne, mais les deux héros au départ sont des hommes. Bah, en fait, on nous a vendu ça comme une comédie, alors qu'en fait, c'est une comédie sentimentale. Il faut réfléchir en fait, à l'appellation, quoi, surtout.
Alors, vous l'avez dit, l'une des particularités de la comédie romantique, eh bien, c'est l'humour. Erika Hamel, quelle est la fonction de l'humour dans ce genre de la comédie romantique?
C'est-à-dire la fonction
Le fait que ce soit drôle, que ces histoires d'amour qui peuvent, par exemple, a priori, mal se terminer à un moment donné avec une rupture. Voilà. Qu'est-ce que l'humour apporte justement ces histoires d'amour qui pourraient être tragiques si ce n'était pas des comédies romantiques.
Alors, ce qui est intéressant avec l'humour, c'est que souvent, ça permet de désamorcer certaines situations qui pourraient être présentées comme compliquées. Je reviens encore, désolée, vous avez pensé que j'ai que ces exemples-là en tête, mais à Hot Springs, tous les espoirs sont permis. Disons que l'humour permet d'atténuer, par exemple, le tabou qui entoure la sexualité de personnages plus âgés que les normes traditionnelles. Souvent, ça permet aussi de construire des nouveaux types d'héroïnes, d'essayer de sortir un petit peu des standards, des clichés. Notamment, on a vu apparaître au cours des années 2010, des héroïnes interprétées par des actrices, par des humoristes de stand-up. Donc j'ai mentionné tout à l'heure Crazy Amy. Sur Netflix, il y avait Always Be My Maybe. Isn't It Romantic? Rebel Wilson était à la base une humoriste de stand-up. Donc ça permet de faire émerger aussi un nouveau type d'héroïne, un petit peu dans la lignée aussi de ces héroïnes très très impressionnant du cinéma classique, mais qui développe un autre type d'humour que ce qu'on voit habituellement.
Marianne Chaillon.
En écoutant ces propos sur l'humour, je me rappelais du début de Love Actually, parce que on retient évidemment tous les moments d'amour, de rencontre, mais le film commence, si je me rappelle bien, par un enterrement. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mm-hmm. Et un enterrement un peu particulier qui, moi, m'a beaucoup donné à penser philosophiquement, puisque vous vous rappelez qu'il met une musique de Bay City Roller hyper dynamique et dans cette espèce de confrontation avec un réel particulièrement tragique sur lequel on pose ce regard plein de distance drôle. Je trouve que là, il y a aussi une des leçons de la comédie romantique qui peut s'appuyer sur le réel tout en nous faisant faire un petit pas de côté qui amène une forme de sagesse.
Cécile Murry, votre roman Paris Hollywood est très drôle. Quelle est la fonction du comique dans cette histoire d'amour entre cette journaliste ciné et cette méga star américaine? Ça commence évidemment par le côté Peter Sellers dans la partie, comme je l'expliquais au début.
Mais justement, c'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est un pas de côté, c'est une façon aussi de se rappeler qu'on n'est pas dans un pur conte de fées. C'est une façon d'égratigner en souriant un peu un certain nombre de clichés. C'est une façon d'échapper à la mièvrerie. C'est une façon aussi quelqu'un qui, pour moi, c'était important justement, même sur une figure féminine, qu'elle soit pas que drôle malgré elle, ce qu'elle est aussi, mais qu'elle soit aussi drôle par ses réflexions, par son ironie, par sa distance, par sa façon de tout le temps creuser l'idée que, en fait, elle est consciente que elle a affaire à une illusion et qu'il faut qu'elle se pose tout le temps, enfin que il y a un décalage entre la réalité et l'illusion sur lequel elle trébuche tout le temps.
Et ça nous invite à injecter de l'humour dans nos propres histoires.
Oui.
Hein? Ah ben oui.
Exactement. Enfin, on n'écrit pas tous comme Cécile Murry.
Non, mais c'est vrai que ça nous invite parfois dans des situations qui pourraient être très conflictuelles, etc. Peut-être de mettre un pas de côté, un peu d'humour, Marianne Chaillon.
Oui, c'est exactement ça. C'est pour le meilleur et pour le pire, les comédies romantiques nous nourrissent et nous construisent, parfois donc avec des stéréotypes. Mais parfois aussi, comme les bons grands romans, quand on vit quelque chose dans la vie réelle, on le vit mieux parce qu'il fait écho à certaines scènes qu'on a pu voir dans des films.
Oui, justement, sur ces figures féminines aussi drôles, c'est quand même aussi vieux pratiquement que l'histoire de la comédie romantique. Quand on voit Katharine Hepburn dans L'Impossible Monsieur Bébé,
et Cary Grant.
C'est un personnage fort, c'est un personnage drôle, et elle est pas drôle à ses dépens, elle est pas drôle parce qu'elle est trop mignonne, elle est drôle et forte. Et même dans New York Miami qui était cité tout à l'heure, elle est drôle aussi. Enfin, c'est voilà.
J'essaye de m'inspirer de Cary Grant dans ma vie. C'est compliqué, c'est difficile. Non, mais
en, fait, en fait, la solution, c'est d'essayer de vivre des contes de fées en se moquant constamment de nous-mêmes, en disant « Oh là là, tu le veux ce stéréotype ?» Oh là là,
c'est d'injecter de la comédie romantique dans nos histoires d'amour.
C'est vraiment l'idée. Allez,
il est 10h43, l'heure de retrouver les choses vues de notre Cary Grant, Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Plus James Stewart, quand même.
L'amour ! En voilà un sujet qui aura fait soupirer les humains. On soupire parce que l'amour nous manque, on soupire parce que l'amour nous bouscule et chamboule nos vies. Et il n'y a pas que les humains que l'amour fait soupirer, il y a aussi les chroniqueuses et les chroniqueurs. Que dire de plus et de mieux sur l'amour que ce qui a déjà été dit ou écrit 1000 fois ? L'amour, c'est comme le bonheur, un vrai ressenti, universel mais compliqué à définir, tellement il a de visages, tellement il peut être différent d'une personne à l'autre et chez la même personne d'un moment de sa vie à l'autre. Et puis, amour et bonheur sont aussi des idéaux, souvent piégeux et confus. Est-ce que, à cet instant, je suis vraiment heureux ? Est-ce que cet amour est vraiment le grand amour ? C'est tellement décourageant que certains préfèrent laisser tomber et dire que bonheur et amour sont des illusions. Écoutez Houellebecq, n'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas. Écoutez La Rochefoucauld, il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. Alors comme ça, l'amour ne serait finalement qu'une création conceptuelle, culturelle, qu'on collerait sur des ressentis très variés, des ressentis comme l'attachement à autrui, le plaisir d'être ensemble, le désir sexuel. Ça se discute. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque culture influence la vision que nous avons de l'amour. En Occident, la littérature de l'amour courtois, puis de l'amour romantique, nous a façonné pendant des siècles avec ses couples de rêve, Tristan et Iseult, Paul et Virginie. Et quand je dis façonné, je ferais mieux de dire conditionné. Écoutez ce qu'écrit Alfred de Musset dans sa comédie en deux actes « À quoi rêvent les jeunes filles ?»« La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, et vous aurez vécu si vous avez aimé. » Sous-entendu, si vous n'avez jamais aimé, vous n'aurez pas vécu, juste une sous-vie. Et après la littérature, il y a eu le cinéma, les grands films d'amour qui ont marqué génération après génération. Docteur Jivago, Love Story, Sur la route de Madison, Titanic. Moi, perso, c'est Out of Africa. Oi, 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 oi. Franchement, comment ne pas avoir envie de tomber amoureux après avoir écouté ça ? Comment ne pas se dire, c'est simple, le grand amour existe, il comblera tous mes désirs, il durera toujours, il m'apportera le bonheur éternel. Bon, évidemment, dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Heureusement, à côté de la culture qui nous fait rêver, il y a la science qui nous fait réfléchir. Les études les plus récentes et convaincantes nous disent que l'amour, c'est un état de résonance affective agréable entre deux personnes avec une dimension altruiste. On veut du bien à l'autre. C'est simple, il y a amour quand on se réjouit d'être en présence d'un autre humain à qui on veut du bien. Ça, c'est la base de tous les visages possibles de l'amour. Amitié, affection, romance, tendresse, fraternité, sororité, bienveillance pour le genre humain. Sur cette base se rajoutent bien sûr d'autres ingrédients. Du désir sexuel, et c'est l'érotisme. Le manque de l'autre, dès qu'il n'est plus là, c'est la passion. La possessivité et la jalousie, et là, c'est le début des ennuis. Et aussi la fin de l'amour. Parce que le plus important en amour, c'est le désir de faire du bien à l'autre. La capacité à se réjouir que l'autre existe et soit heureux. Avec nous si possible et sans nous si nécessaire. Alors, voici un exercice pour la semaine. Ça s'appelle « Retour aux fondamentaux de l'amour ». Pensez à toutes les personnes que vous aimez, qu'il s'agisse d'amour conjugal, familial, amical. Et demandez-vous ceci. Êtes-vous capable de simplement et sincèrement vous réjouir qu'elles existent et qu'elles soient heureuses, avec ou sans vous ?
Réfléchissez. Et si besoin, mettez-vous au boulot pour aimer autrement.
Un très très bel exercice à faire en cette journée estivale, quasi estivale. Pour les stagiaires de seconde, on a entendu qui sont avec nous en régie, on a entendu la musique, la bande originale de Out of Africa de Sidney Pollack avec Robert Redford et Meryl Streep qui n'a pas pris une ride, Guillemette Odissino.
Ah non, non. Moi je veux bien rentrer en résonance. Maintenant, c'est comme ça qu'on dit pour l'amour. Moi, je veux bien rentrer en résonance avec Robert Redford.
Votre regard, Marianne Chaillant, sur la chronique de Christophe André.
Excellente, comme toujours. Et ça m'a fait penser à la distinction que Descartes fait entre l'amour de concupiscence et l'amour de bienveillance. Où, en fait, ce qui compte, c'est que l'autre soit heureux, comme tu le disais très bien. Voilà. Aimer comme Cyrano. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Aimer pour le bien de l'autre et non pas un amour tourné vers soi et les fruits qu'on pourrait en retirer.
Tous les épisodes des choses vues de Christophe André sont à retrouver sur l'appli Radio France. Dans un instant, nos invités partagent leurs meilleures comédies romantiques, films ou séries. N'hésitez pas à partager au 01 45 24 7000. On se retrouve juste après avoir écouté Je l'adore, Jeanne Chéral. Vous la connaissez bien, je crois, Guillemette, qui interprète son tout nouveau titre, Rodrigue. 10h48 sur Inter. J'adore. De Jeanne Chéral, Rodrigue.
Ali Rebelli.
J'adore les comédies romantiques. Juste, il y a des trucs qui me saoulent un peu. Vous avez vu ? Dans les comédies romantiques, les filles dont les mecs tombent amoureux, elles sont toujours très maladroites, mais limite handicapées.
Grand bien vous fasse.
C'est pour les rendre attachantes, je crois. Les problèmes psychomoteurs, c'est sexy, visiblement.
Sur France Inter.
Comment les comédies romantiques influencent notre vision de l'amour et du couple ? C'est notre thème ce matin. Tiens, un chiffre que je ne vous ai pas encore donné. Selon le Journal of Social and Personal Relationships, 74% des participants, je ne sais pas ce qui m'arrive, des participants à une enquête déclaraient que les films romantiques influençaient leurs attentes et perceptions des relations amoureuses. Ça vous étonne ce chiffre, Marianne Chaillant, philosophe ?
Non, pas du tout. Non. Même peut-être il est trop bas. Peut-être qu'il y a 26% peut-être. De gens qui ne sont pas honnêtes.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Tout à fait dans ce qui vient d'être dit, mais là je me tourne vers notre
ex-thérapeute de couple en face de moi, Christophe André.
Ah, j'ai cru que c'était votre ex, pardon.
Non. Oui, on a tenu la saison et puis là, voilà, ça, c'est fini. Alors, la scène culte, évidemment, on l'a pas citée, mais bien sûr, Meg Ryan et son hamburger. Des répliques bien senties, voilà. Des répliques bien senties, il y en a plein dans les comédies. Est-ce que vous avez souvenir de patients qui vous ont parlé de scènes en disant j'aurais aimé répondre ça? Tiens, en sortant de ce film, je me suis dit c'est ça que je vais lui dire ce soir. Est-ce qu'il y a quand même cette imprégnation de la fiction dans la vie réelle?
Bon, je vais... Désillusion totale dans ma réponse, je suis désolé. Moi, j'ai le sentiment et la petite expérience de cette, voilà, de ces thérapies, de ces couples qui dysfonctionnaient. Moi, je ne voyais que ça. Et c'est qu'en fait, malheureusement, les comédies romantiques influencent les femmes et leur obscurcissent l'entendement et les poussent à tomber entre les mains d'hommes cyniques et séducteurs. Je pense que les comédies romantiques, le mythe du prince charmant ouvre la voie à Don Juan. Don Juan s'habille des plumes du prince charmant pour séduire et pour abandonner. Donc, malheureusement, je crains que les comédies romantiques ne jouent aussi un rôle petitement toxique, et je l'ai vu de temps en temps à l'œuvre, malheureusement.
C'est ce qu'on disait au début, les comédies romantiques créent les Emma Bovary nous sommes.
Cécile Mury.
Oui, ben je
pas casser l'ambiance.
Je mesure ce que j'ajoute à cette illusion. Et en même temps, il y a aussi l'idée qu'on peut. On peut être encombré de son personnage de prince charmant quand on est et que ça peut être aussi très lourd pour un garçon d'arriver en portant toutes ces illusions. Et c'est quelque chose qui m'a intéressée aussi dans la comédie romantique.
Dans la lignée de la question de Marie-Laure Zonshine, selon plusieurs membres éminents du bureau de Grand Main Vous Fasse, les comédies romantiques sont un parfait antidote au chagrin d'amour. Vous êtes d'accord avec ça ou Marianne Chaillon?
Alors, je m'étais jamais posé la question, mais oui, d'une manière, puisqu'elles nous disent, ça n'a pas marché cette fois, ça pourra. On peut se dire, au moment d'un chagrin d'amour, je suis au début d'une comédie romantique.
Exactement.
Voilà, ça vient de mal se terminer, mais bien sûr, ça m'attend au tournant de la rue.
Allez, pour terminer, quelles sont vos comédies romantiques de chevet, celles qui ont peut-être influencé votre vision de l'amour et du couple? Qui veut commencer autour de la table, Guillemette Odissino?
En fait, on a cité beaucoup de titres, et beaucoup de titres qui effectivement sont absolument cultes et qui jouent avec les stéréotypes et tout. Alors, je voudrais faire un pas de côté, moi aussi, c'est Happiness Therapy, de David O. Russell, parce que c'est quand même l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont des petits problèmes. Ils sont où? Enfin, ils sont d'abord dépressifs, qu'ils en peuvent plus, quoi. Ils ont un humour noir pas possible, ils ont quasiment envie de mourir. Et en fait, c'est vraiment leur désespoir qui va les rapprocher. Et ça, je trouve ça intéressant de partir d'une grosse noirceur, d'une vision de la vie vraiment désespérée, et que deux quasiment suicidaires finissent par danser ensemble, au sens même propre du terme. Mm-hmm. Deux acteurs fabuleux. Franchement, c'est...
Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Cécile Mury.
Alors moi, ça serait... c'est un vieux film, ça serait The Shop Around the Corner, d'Ernst Lubitsch. Avec James Stewart et Margaret Sullivan, parce que c'est tout ce qu'il y a de plus délicieux, délicat, drôle dans la comédie romantique, et qu'en même temps, c'est vraiment ancré dans le réel, et c'est vraiment ancré dans un moment, et ces deux employés d'une boutique qui essayent de rêver, et qui en fait se retrouvent à l'intérieur du réel. Donc en fait, ça répond à beaucoup de choses qu'on s'est dites, et j'adore ce film.
Je vais dans votre sens, The Shop Around the Corner, qui s'appelle également Rendez-vous d'Ernst Lubitsch, Marianne Chaillon.
Alors moi je vais citer un film qu'on a beaucoup cité, je suis tombée dessus l'autre jour à la télé, il était tard, j'avais toutes les raisons d'aller dormir, je l'ai vu 2000 fois et je l'ai revu pour la 2001e fois, en citant par avance toutes les répliques du film, c'est Coup de foudre à Notting Hill.
Ça fait partie du plaisir de se lover comme ça dans ce genre de film et de connaître les répliques par cœur.
Exactement.
Ouais. Erika Hamel.
C'est dur, choisir c'est renoncer. Mais honnêtement, ma comédie romantique préférée, ça restera toujours Le Journal de Bridget Jones. Justement, parce que c'est le film de mon enfance, c'est celui dont je retaperai le scénario de mémoire. Et parce que c'est une héroïne extraordinaire, Bridget Jones. De bien des façons.
Moi, c'était le film de ma vie d'adulte, déjà.
Dis-tu
a-t-il une petite voix coincée?
Marie-Laure Zenshine, est-ce qu'il y a
Je dirais exactement comme Marianne Chaillant, l'humour britannique, ça, c'est, ouais, voilà. Il n'y a rien à faire. C'est au-dessus de tout. Donc, Notting Hill, Love Actually.
Pareil, voilà.
Comme
il
vous,
a fallu choisir, mais.
Christophe André qui n'aime pas ça.
Non, j'aime pas ça, j'ai aucun film à vous donner, mais je suis très culpabilisé d'avoir un peu cassé l'ambiance tout à l'heure. Et non, je voulais dire que les comédies romantiques exposent effectivement beaucoup à la déception, si on en regarde trop, si on y croit, mais elles nous poussent aussi vers la consolation. La vie est quand même belle, la vie est drôle, l'amour est toujours là au coin de la rue, il y a des amis pour nous réconforter, voilà. Donc,
mais oui, il y a cette scène dans Love Actually où Hugh Grant dit « À chaque fois que je suis un peu triste, je vais dans un aéroport et je constate que l'amour is everywhere. »
Ah, mais la dernière scène de Love Actually, moi, je verse des larmes à chaque fois.
Mais oui.
Merci beaucoup pour ce Happy End, Christophe André. Merci à toutes. Merci Marianne Chaillant. Merci Erika Hamel. Bonne chance pour votre thèse. Merci. Vous la soutiendrez quand, votre thèse?
Un jour.
Merci beaucoup, Guillemette Audicino. On vous retrouve évidemment vendredi dans Grand Main Vous Fasse. Et merci Cécile Murray. Je recommande votre roman très drôle, votre comédie romantique, Paris Hollywood. C'est publié chez Flammarion. Demain, ce que la littérature jeunesse peut nous apprendre de la vie et quelques conseils avec notre club de lecture jeunesse. Dans un instant, retrouvez Mathilde Munoz et toute l'équipe du 5-7.
Inter, la nuit, les meilleures émissions, les meilleurs podcasts.
Chambre à moi mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Mais rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons de bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un araïlitière. Un araïlitière. C'est un perroquet tout vert, aussi vert que mon jardin, devant ma chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone sans fatiguer personne. Je jouerai mon saxophone. Quand je joue mon saxophone, c'est pour personne. Quand je joue du saxophone, quand je joue c'est pour personne. Quand je joue du saxophone, quand je joue c'est pour personne. Quand je joue du saxophone, quand je joue c'est pour personne. Je voudrais une chambre à moi mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Et rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons de bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un araïlitière. Je voudrais une chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone sans fatiguer personne. Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue mon saxophone, c'est pour personne.
France Inter, la nuit.